Chapitre 24. Premier tour. Le dernier groupe. Mon prince, à ton avis. 1. Jaya s'assit à côté de Ahmet sur le banc et lui prit la main. Il la laissa pendre mollement dans la sienne.
« Je ne veux pas, » dit-elle.
« Je sais, » dit Ahmet sans la regarder. « C'est pas grave. »
« Peut-être que tu vas me battre, si ça se trouve. Je ne suis pas très forte, pas autant qu'Eris. »«
Ouais, peut-être. » La porte s'ouvrit et deux soldats de la nuit firent leur entrée dans le vestiaire.
Ils semblaient aussi excités que peuvent l'être des cadavres animés. Leurs auras palpitaient comme si des cœurs morts battaient encore en eux.
Premier groupe, allez, allez, ne faites pas attendre Sa Majesté, petit, il est déjà installé.
Tout d'abord, personne ne bougea, et pendant un moment fou, je crus que la grève suggérée par Amit allait se produire, jusqu'à ce que je songe aux conséquences pour les grévistes sentants. Après avoir jeté un nouveau coup d'œil au tableau, afin de s'assurer qu'un miracle n'avait pas modifié la liste des duels, la première demi-douzaine de combattants s'avança. Frémy et Murph, Amit et un type de petite taille rondouillard nommé Whale, Ahmet et Jaya. Elle le tenait toujours par la main, se faisant toute petite pour éviter l'aura d'un soldat de la nuit posté tout près d'elle. À l'époque du règne des Galiens, on aurait entendu monter la clameur des spectateurs impatients entassés dans le stade au moment où apparaissaient les combattants. En tendant l'oreille, je crus percevoir quelques applaudissements épars, mais c'était peut-être mon imagination. Certainement. Car les tribunes du terrain d'Elden, anciennement terrain des monarques, étaient quasiment vides. Le garçon que j'avais rencontré sur la route avait raison. Lilimar était une ville hantée, un endroit où ne subsistaient que les morts, les zombies et quelques lèches-culs. Il n'y avait plus aucun papillon. Sans la présence des soldats de la nuit, il serait possible de s'évader, songeai-je. Puis je me souvins qu'il fallait compter également avec deux géantes, sans oublier Flight Killer lui-même. Je ne savais pas ce qu'il était désormais, quelle métamorphose éventuelle il avait subie, mais une chose semblait certaine. Ce n'était plus le petit frère de Léa, le garçon aux deux pieds beaux, avec sa bosse sur le dos et sa grosseur dans le cou. Difficile de dire combien de temps s'écoula. Plusieurs d'entre nous utilisèrent la rigole à pisse, moi y compris. Rien de tel que la peur de mourir pour vous donner envie de pisser. Enfin, la porte du vestiaire s'ouvrit et Amit entra. Il avait une légère entaille sur le dessus de sa main velue, mais cela mis à part, il était indemne. Mais Seul se précipita vers lui dès que le mort-vivant qui l'escortait recula.
« Comment ça s'est passé ? Ouais, il est vraiment... »
Amit le repoussa si violemment que Messel s'affala sur le carrelage.
« Je suis revenu et pas lui. C'est tout ce que j'ai à dire. » Et c'est tout ce que t'as besoin de savoir. Fous-moi la paix. »
Il alla s'asseoir à l'extrémité du banc et se prit la tête à deux mains, penché en avant. Une posture que j'avais vue bien souvent sur les terrains de baseball, quand un lanceur était exclu après avoir manqué un coup important. La posture d'un perdant, pas celle d'un vainqueur. Mais évidemment, on serait tous perdants, en définitive, si rien ne se passait.
« Sauve-la !»
m'avait murmuré la domestique de Léa. Étais-je censé les sauver tous, maintenant, uniquement parce que, sous plusieurs épaisseurs de crasse, mes cheveux étaient blonds ? C'était absurde. Cla continuait à me mater. De toute évidence, il avait bien l'intention d'être encore là pour le dîner. Quand viendrait le dernier duel de la journée, je n'aurais même pas l'occasion de sauver ma propre peau. Murph fut le suivant à revenir dans le vestiaire. Il avait un œil gonflé et l'épaule droite de sa chemise était imbibée de sang. Stooks comprit que son partenaire de comédie n'était plus. Il laissa échapper un sanglot et plaqua sa main sur ses yeux. On attendait. Toute notre attention était fixée sur la porte. Lorsqu'elle s'ouvrit de nouveau, Jaya entra, livide, mais indemne apparemment. Des larmes coulaient sur ses joues.
« J'étais obligée, »
dit-elle.
« Pas uniquement pour moi. Pour nous tous, j'étais obligée. Sinon, ils nous auraient tués tous les deux. »
2. Le deuxième groupe fut appelé sur le terrain. Yano devait affronter Dogfried, Ayota se battrait contre Jaka et Messel contre Sam. Après leur départ, je m'assis à côté de Jaya. Elle refusait de me regarder, mais un flot de paroles jaillit de sa bouche, comme si elle ne pouvait pas les garder en elle, de peur d'exploser.
« Il ne pouvait pas vraiment se battre. Tu as bien vu dans quel état il est, dans quel état il était. Mais il a donné le change. Pour moi, je pense. Il réclamait du sang. Tu les entendras quand viendra ton tour. Il lui criait de tuer cette chienne. Il me criait de passer derrière lui pour le poignarder dans le cou.
Il y a des couteaux ?
Non, des sortes de lances courtes et des gants avec des pointes en fer aux jointures. Ils sont posés sur la table où il y avait les tasses à l'entraînement. Ils veulent qu'on se batte de près. Ils veulent voir un maximum de coups de poing et de poignard avant qu'un des deux adversaires meure. Mais j'ai pris un des bouts de bois, tu vois, et... »
Elle mima un mouvement de balancier. Les bâtons de combat ?
Oui, on se tournait autour. Frémy était déjà mort, la gorge tranchée. Et à un moment, Amé a failli glisser dans le sang. Whale, lui, était couché sur la piste.
Ouais, confirma Amit sans lever la tête. Cet imbécile a essayé de fuir.
Il ne restait plus que Amé et moi. Soudain, Aaron a annoncé que dans 5 minutes, il nous tuerait tous les deux. Il voyait bien qu'on ne se battait pas vraiment. Amé s'est jeté sur moi en agitant sa petite lance sur le côté, bêtement, et je lui ai donné un coup dans l'estomac avec le bout de mon bâton. Il a hurlé. Il a laissé tomber sa lance dans l'herbe sans cesser de hurler.
Un coup dans l'estomac, songeais-je. Son estomac qui le faisait souffrir nuit et jour.
Je ne supportais pas de l'entendre. Ils applaudissaient, ils riaient et faisaient des commentaires du genre « joli coup » ou « la petite chatte l'a humilié » et Amé continuait à hurler. J'ai ramassé la lance. Je n'avais jamais tué personne. Mais je ne supportais pas de l'entendre hurler, alors je...
Tu peux t'arrêter là, dis-je. Elle me regarda, les yeux remplis de larmes, les joues mouillées.
Tu dois faire quelque chose, Charlie. Si tu es le prince qu'on nous a promis, tu dois faire quelque chose.
J'aurais pu lui répondre que la première tâche du prince Charlie consisterait à ne pas se faire tuer par Kla, mais elle était suffisamment torturée, alors je me contentais d'une brève étreinte. Il est présent, Flykiller? Elle répondit par un hochement de tête. À quoi il ressemble? Je repensais à ce siège d'honneur aux accoudoirs tournés vers l'extérieur, comme pour accueillir une personne extraordinairement obèse, ou du moins extrêmement corpulente.
Il est affreux. Affreux. Il a le teint vert, comme si quelque chose clochait à l'intérieur. De longs cheveux blancs pendent sur ses joues, sous sa couronne. Ses yeux globuleux ressemblent à des œufs à la coque et son visage est tellement épais qu'il n'a presque plus rien d'humain. Il a de grosses lèvres, toutes rouges, comme s'il mangeait des fraises. C'est tout ce que j'ai pu voir. Il est enveloppé d'une immense robe violette, du menton jusqu'aux pieds. Mais je la voyais bouger, comme s'il cachait un animal domestique dessous. Il est horrible, monstrueux. Et son rire. Les autres ont applaudi quand Amé est mort. Mais lui, il riait. De la bave coulait des coins de sa bouche. Je l'ai vu dans la lumière des brûleurs. Il y avait une femme près de lui. Grande et belle, avec un petit grain de beauté à côté de la bouche.
Petra, dis-je. Un homme l'embrassait dans le cou en lui plotant les nichons quand j'ai envoyé Amit au tapis.
Elle...
Jaya frémit de nouveau.
Elle l'a embrassé, elle aussi, à l'endroit où coulait la bave. Elle a léché son visage vert.
Ayota revint, escorté par un soldat de la nuit. En me voyant, il hocha la tête. Jaka était mort, donc. 3. Dès que la porte du vestiaire se referma, je m'approchai d'Ayota. Je ne remarquai aucune blessure, aucune marque.
« Cette grosse chienne est là !» dit-il. « Red Molly, elle nous regarde de la piste, sous la tribune des huiles. Ses cheveux sont pas vraiment rouges, plutôt orange, couleur carotte. Ils se dressent sur son crâne comme des plumes. Elle mesure au moins 4 mètres de la tête aux pieds. Elle porte une jupe en cuir. Ses nichons ressemblent à deux rochers. Chacun doit peser aussi lourd qu'un gamin de 5 ans. Elle porte un couteau à la ceinture, dans un fourreau. Presque aussi long que les petites lances avec lesquelles on doit se battre. Je parie qu'elle nous observe afin de repérer la technique des gagnants. Pour plus tard, tu vois. »
Cela me fit penser au coach Harkness et à nos entraînements du jeudi soir avant les matchs du vendredi. À ces après-midi, où on finissait 20 minutes plus tôt pour se retrouver dans un vestiaire moins chic que celui-ci, mais presque semblable sinon. Le coach poussait une télé sur un chariot et on regardait les matchs de nos futurs adversaires en vidéo, leurs déplacements, leurs combinaisons, surtout le quarterback. Le coach nous le montrait 20 ou 30 fois sous des angles isolés, ses feintes, ses esquives, son jeu de jambes. Un jour, j'avais raconté ça à mon oncle Bob. Il avait éclaté de rire. « Ton coach a raison, Charlie. Si tu coupes la tête de ton ennemi, le corps meurt. »
« Ça me plaisait pas de la voir nous regarder comme ça, » dit Ayota. « J'espérais qu'elle me sous-estimerait et que le moment venu, je pourrais peut-être la planter ou l'estourbir. Au lieu de ça, elle va avoir 4 fois l'occasion de regarder comment je fais. Et moi, je pourrais même pas voir comment elle fait. »
Je ne lui fis pas remarquer qu'il partait du principe que je serais mort d'ici là, prince ou pas. « Kla pense que ce serait lui, » dis-je. Ayota s'esclaffa alors qu'il venait de tuer un compagnon de détention de longue date.
« Quand il en restera plus que deux, ce sera moi contre Kla, c'est certain. J'ai fini par te trouver sympathique, Charlie, mais à mon avis, t'arriveras même pas à le toucher. Mais moi, je connais son point faible.
À savoir,
il m'a envoyé au tapis l'autre fois, en me filant un coup dans la gorge si fort que c'est un miracle que je puisse encore parler. Mais ça m'a appris un truc. »
Il ne répondait pas à ma question. Mais seul revint à son tour. « Adieu, Sam. » Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit de nouveau et je fus surpris de voir entrer Doc Fried, même s'il avait besoin d'être soutenu. Percy l'accompagnait. Il avait passé une de ses mains nageoires sous l'aisselle de Fried pour l'aider à marcher. Sa cuisse droite saignait abondamment à travers un bandage de fortune. Son visage tuméfié avait un aspect grotesque, mais il était vivant. On ne pouvait pas en dire autant de Yano. J'étais assis avec Double et Eris. « Il ne pourra plus se battre, commentai-je, à moins que le prochain tour ait lieu dans 6 mois, et encore. »
« Ce ne sera pas dans 6 mois, » dit Eris. « Ni même dans 6 jours. Et s'il ne se bat pas, il mourra. »
Ça ne ressemblait décidément pas à un match de foot. 4. Bolt et Bendo survécurent dans le troisième groupe. Kamit également. Il revint couvert de plaies et déclara qu'il avait cru sa dernière heure arriver. Puis ce pauvre Domi avait été victime d'une de ces terribles quintes de toux qu'il avait pliées en deux. Profitant de cette chance inespérée, Kamit lui avait planté sa lance dans le cou. Le doc était allongé sur le sol, endormi peut-être. C'était peu probable compte tenu de ses blessures, ou évanoui. Pendant qu'on attendait que se termine le troisième groupe, Kla continuait à me dévisager sans se départir de son grand sourire. Je parvins à y échapper en allant chercher de l'eau dans le seau, au creux de ma main. Mais quand je revins, il était toujours là à me mater. « Je connais son point faible », avait dit Ayota. « Il m'a envoyé au tapis l'autre fois, mais ça m'a appris un truc. Qu'avait-il appris? Je me repassais mentalement le combat, si on pouvait appeler ça ainsi, dans la cellule d'Ayota. L'impressionnante rapidité du cou à la gorge, le saut qui roule sur le sol, Kla qui se retourne pour le regarder, Yano. Feu, Yano. Qui dit « Si tu l'as tué, tu vas le payer cher ». Ayota qui se relève et regagne sa paillasse pendant que Kla se baisse et ramasse le seau. Peut-être pour assommer Ayota au cas où celui-ci riposterait. S'il y avait un indice à remarquer, il m'échappait. Après le troisième groupe, Percy fit son entrée en poussant un chariot. Aaron l'accompagnait. Je sentis une odeur de poulet grillé qui m'aurait paru alléchante dans d'autres circonstances, mais je savais que c'était peut-être mon dernier repas.
« Mangez de bon cœur, petit !» lança Aaron. « Vous ne pourrez pas dire que vous n'êtes pas bien traité. »
La plupart de ceux qui avaient remporté leur duel se jetèrent sur la nourriture. Ceux qui devaient encore se battre s'abstinrent, à une exception près. Kla prit un demi-poulet dans le chariot de Percy et mordit dedans à pleines dents sans cesser de me regarder. Le cou à la gorge. Ayota allongé sur les pierres de sa cellule. Le seau qui roule. Ayota qui rampe jusqu'à sa paillasse en se tenant la gorge. Kla cherche le seau et le ramasse. Qu'avait donc vu Ayota qui m'échappait? Le chariot arriva à ma hauteur. Aaron, observant Percy, celui-ci s'abstint de me saluer. Dogfried émit un grognement, roula sur le côté et vomit sur le sol. Aaron se retourna et désigna Kamit et Bendo assis côte à côte sur un banc non loin de là.
« Toi et toi, nettoyez-moi ce merdier !»
Je profitai de cette distraction pour lever la main en pinçant mon pouce et mon index et je m'y mets le geste d'écrire. Percy répondit par un haussement d'épaule à peine perceptible, peut-être pour signifier qu'il comprenait ou pour me demander d'arrêter avant qu'Aaron me voie. Quand Aaron revint sur nous, j'étais occupé à choisir un pilon de poulet dans le buffet ambulant en songeant « Qu'importe que Percy ait compris le message ou pas, si Kla me tue au cours de l'ultime combat de la journée. »
« Ton dernier repas, petit, » me lança le colosse.
« Savoure-le. »
« Il essaie de m'intimider, » pensais-je. Je le savais déjà, évidemment, mais formuler cette vérité la rendit plus réelle, plus concrète. Les mots possèdent ce pouvoir, et ils ouvrirent quelque chose en moi. Un trou, peut-être même un puits, comme lors de mes sales expéditions avec Bertie Bird, ou plus récemment, dans mes confrontations avec Christopher Paulet et Peter Keane, le nain. Si j'étais un prince, je n'étais pas le ravissant blondinet insipide qui étreint la ravissante nunuche à la fin du film. Mes cheveux enduits de boue séchée n'avaient rien de ravissant et mon combat contre Kla ne serait pas beau à voir, lui non plus. Il serait peut-être bref, mais beau, non. Je pensais... Je ne veux pas être un prince à la Disney. Au diable toutes ces histoires. Si je dois être prince, je veux être un prince des ténèbres.
Arrête de me regarder, tête de nœud, dis-je.
Une expression d'étonnement teintée de perplexité remplaça son sourire, et je compris pourquoi avant même de lui lancer mon pilon au visage. L'expression tête de nœud venait du puits, elle était sortie en anglais, et il ne l'avait pas comprise. Je loupai ma cible d'un kilomètre, le pilon de poulet heurta un des seaux et retomba par terre, mais Kla sursauta sous l'effet de la surprise et tourna la tête en direction du bruit. Iris éclata de rire. Le colosse se retourna vers elle et se leva, dans un grognement.
« Non, non, non !»
s'écria Aaron.
« Garde tes forces pour le terrain, petit. Sinon, je t'envoie une telle décharge que tu pourras même pas sortir d'ici. Et Charlie sera déclaré vainqueur par abandon. » « Flight Killer n'aimera pas ça, et je ferai en sorte que ça te plaise encore moins. »
Furieux et manifestement frustré, Kla se rassit, en me foudroyant du regard. À mon tour d'afficher un grand sourire. Je me sentais l'âme sombre et c'était bon. Je pointais mon doigt sur lui. « Je vais te massacrer, trésor !» Des paroles impudentes. Je les regretterai peut-être plus tard, mais sur le moment, ça faisait du bien.